En fait, c'est sûr que tous les visiteurs de salon ont certainement en tête aujourd'hui de fabriquer la meilleure bière qui soit, avec les meilleurs équipements qu'on leur propose dans ces allées. Mais faire la meilleure bière qui soit, c'est une chose. Encore faut-il le faire savoir. Et comment le faire savoir à vos futurs consommateurs ? Ben, c'est forcément par l'étiquette que ça va passer. En effet, alors je vais essayer de vous parler de tout ce qu'on doit prendre en compte pour faire concevoir une étiquette, parce que malheureusement, il n'existe pas de recette miracle pour créer l'étiquette qui va vous assurer une vente à tout craint de votre produit. La chose dont on devra se souvenir au démarrage, c'est que cette étiquette élève le reflet de vous-même, de votre personnalité, de votre bière, bien sûr, de vos installations et de vos valeurs. Alors ça ne suffit pas, parce que les goûts et les couleurs, ça se discute, tout le monde vous le dit. Et en fait, ce que l'on cherche à faire en créant une étiquette, c'est d'attirer l'attention des consommateurs sur votre produit. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, les linéaires de bières artisanales chez les grands distributeurs deviennent immenses. Donc comment attirer l'attention du consommateur sur votre produit ? Ça sera effectivement par l'étiquette. Alors par quoi on va commencer ? On va d'abord commencer par trouver un nom. Ça, en général, ce nom, il est le reflet, effectivement, de votre projet, de votre desiderata de création. Et c'est souvent quelque chose qui émerge avant toute chose. Bon, c'est bien beau tout ça, mais n'oubliez pas encore une fois que vous destinez votre produit à une cible d'acheteurs potentiels. Alors mon conseil, multipliez les petits entretiens, multipliez les micro-trottoirs dans vos familles, vos amis et les questionnaires de façon à connaître plus précisément ce qu'attendent ces consommateurs du produit que vous allez leur présenter. Vous leur demanderez aussi en même temps à quel endroit ils vont aller acheter votre produit. Ils sont susceptibles d'acheter chez un caviste, en linéaire, la grande distribution, ou sur Internet, ce qui constitue aujourd'hui un canal non négligeable de vente. Et bien entendu, vous chercherez à savoir aussi ce que ce consommateur futur attend comme information sur votre étiquette. Est-ce qu'il a envie de connaître votre propre histoire ou finalement non ? Tout ce qui compte, c'est peut-être d'avoir les renseignements précis sur la qualité de votre produit. Tout ça étant à peu près listé dans votre tête, eh bien vous allez partir sur la création d'une étiquette. Alors, une étiquette, vous le voyez, c'est un certain nombre de facteurs à prendre en compte dès le début. Les formes, un matériau, c'est-à-dire du papier en général, une technique d'impression, définition possible. Bien entendu, on vient de le dire, des goûts, des couleurs, on en discute autant qu'on veut. Et donc, quelles seront les couleurs que vous allez choisir pour votre étiquette ? En relation avec une typographie, donc des caractères, des lettrines, un design, et on n'oubliera jamais, bien entendu, les mentions, et en particulier les mentions obligatoires à faire figurer sur votre étiquette. Alors passons premièrement à la forme. Bon, écoutez, aujourd'hui, vous avez le choix de tout. Des choses carrées, des choses ovales, des bords coupés, des étiquettes enveloppantes, des étiquettes rectangulaires, des contre-étiquettes sophistiquées ou au contraire des plus simples possibles. Aujourd'hui, encore une fois, soit vous allez faire appel à un designer ou un fabricant d'étiquettes et là, il va vous proposer des formes spéciales, soit ce qui se fait surtout quand on démarre son activité, on va faire du web to print et sur chacune de ces slides que je vous présente, je vous ai mis les références sur Internet de sites qui vous permettent de concevoir vous-même votre propre étiquette. Donc, tout est permis sur l'étiquette à condition qu'elle soit attachée d'une façon solide à la bouteille que vous allez vendre, bien évidemment. Ce n'est pas seulement l'étiquette de fabrication comme celle que l'on voit sur ce que l'on voit ici. Donc, les formes, toute forme est possible, mais n'oubliez pas qu'il y a une cohérence à avoir avec la taille de votre bouteille. Et ici, c'est un fabricant de papier d'étiquette qui est Avery Dennison qui vous propose un petit guide qui va vous orienter sur la taille que devra avoir votre étiquette par rapport à la contenance de votre bouteille. Plus la bouteille est grosse et plus vous allez pouvoir faire une étiquette, une contre-étiquette, voire même une collerette. Quand elle est petite, ne surchargez pas trop d'informations, tue l'information. Donc voici quelques dimensions hein, qui peuvent vous aider sur la forme que vous allez choisir pour votre étiquette. La forme étant globalement définie, on va chercher quelle matière utiliser comme support d'impression. Eh bien, vous le voyez, là aussi, le choix est multiple. On peut aller du plus simple au plus compliqué, je dirais du plus sophistiqué au plus naturel. Vous voyez, par exemple, que si on veut rester sur la simplicité, on se contentera de choisir un papier blanc couché, hein, 80-90 grammes par mètre carré en densité. Plus vous allez vers le sophistiqué et plus vous irez vers des papiers texturés, là, on va jouer sur l'analyse sensorielle, le toucher. On a des soft touch, on a des choses qui peuvent aussi avoir des touchés un peu plus, je dirais, élastiques. Si vous voulez vraiment jouer une sophistication à l'extrême, bah, utilisez des choses métallisées, des papiers métallisés. Globalement, si vous voulez par contre des bouteilles transparentes, n'oubliez pas que le polypropylène est un matériau qui va pouvoir s'imprimer pour faire une étiquette qui va donner, qui va conserver la couleur de votre bouteille ou de votre bière. Au passage, la grande tendance, c'est tout ce qui est naturalité, développement durable. Donc, les papiers recyclés, évidemment, c'est pas très compliqué. Le papier carton est le matériau d'emballage le plus recyclé dans le monde. On peut même avoir des papiers issus de canne à sucre, de bambou et autres hein, qui peuvent vous amuser et sur lesquels vous pourrez communiquer vis-à-vis de vos consommateurs. Surtout, quelque chose dont on va reparler un peu plus précisément plus tard, c'est que l'étiquette d'une bouteille réutilisable, qu'elle soit consignée ou pas, va devoir, elle, être constituée d'un papier hydrophile, puisque l'idée sera de décoller cette étiquette pour pouvoir réutiliser la bouteille pour un re-remplissage. Donc, si je vous dis ça, c'est parce que, vous le savez peut-être, on a une loi en France qui s'appelle la loi AGEC, comme lutte contre le gaspillage et pour l'économie circulaire qui nous oblige dans les années qui viennent à 10% d'emballage consigné. Évidemment, le premier emballage à quel on pense en consigne, c'est la bouteille en verre. Hein. Donc, impérativement, on aura choisi un papier qui peut se plier à ces exigences d'étiquette lavable et décollable. Alors, bien sûr, vous pouvez aller à l'extrême. Là, je vous ai mis un petit clin d'œil. C'est Budweiser à côté, là, sur la gauche, hein, qui, là, a imprimé... Pardon, je suis allée... Voilà. C'est Budweiser qui est allé imprimer directement son étiquette sur le verre. Bon, évidemment, si on est amateur, on n'a peut-être pas les moyens de se faire ce genre de choses. Par contre, vous avez une bouteille qui est propriétaire. Celle-là, elle reviendra chez vous. Elle va pouvoir tourner autant de fois que vous l'aurez voulu. Alors, vous pouvez aussi vous amuser à ce genre de revêtement sur la bouteille. Il s'agit d'un hall d'aluminium qui recouvre la bouteille. Et vous savez comment ça se passe dans les cafés. Alors, il y a ceux qui mettent les bouchons en métal dans la bouteille. Ça, c'est pas génial, hein. Mais il y a ceux aussi qui utilisent la capsule pour faire des dessins sur la bouteille. Voici ce que vous présente et vous propose cette bière allemande. Bon, allez, trêve de plaisanterie. On va plutôt aller sur des étiquettes, je dirais, plus classiques et pour lesquelles on va choisir une technique d'impression particulière. Bon, les fabricants d'étiquettes vous proposent des tas d'impressions possibles, des plus sophistiquées, encore une fois, aux plus simples. Et surtout, ce qui est plus important pour nous, c'est la taille des séries des étiquettes que vous allez pouvoir commander hein, à faire imprimer par ceux-ci. L'impression numérique, qu'elle soit en noir et blanc, qu'elle soit en couleur, elle vous permet d'avoir vraiment des petites séries. Qu'est-ce que c'est qu'une petite série d'étiquettes ? C'est environ 200 étiquettes. Alors, bien entendu, ça n'a rien à voir avec une impression flexo en série, où là, on va parler d'étiquettes par lot de milliers, bien évidemment. Donc, l'impression numérique permet vraiment aujourd'hui de proposer des choses extrêmement qualitatives en très petite série et bien entendu aussi à des tarifs qui sont intéressants. Alors, quand on parle d'impression, n'oubliez pas qu'il n'y a pas que les mentions dont on va parler, il n'y a pas que le design, mais on peut rajouter sur nos étiquettes des choses qui vont rendre cette étiquette intelligente. C'est en particulier tous les QR codes. Vous savez qu'aujourd'hui, tous les jeunes ou beaucoup d'associations de consommateurs ont développé des applications. Vous scannez avec votre smartphone les QR codes et ça renvoie sur un site sur lequel vous allez pouvoir raconter une histoire que vous n'aurez peut-être pas eu la place de mettre sur votre étiquette, bien évidemment, parce qu'encore une fois, trop d'informations tue l'information. Autre solution, si vous démarrez une activité que vous n'êtes pas sûr de la qualité de ce que vous allez produire, c'est-à-dire si vous hésitez dans une gamme de bières, eh bien, optez pour des étiquettes pré-imprimées avec votre logo. Il vous sera possible à vous de rajouter la mention de la bière que vous allez proposer et toutes les mentions relatives au taux d'alcool, par exemple, et aux ingrédients qui sont rajoutés donc, dans cette bière. Donc, on va, dans ces cas-là, faire une pré-impression avec un minimum d'éléments qui seront les éléments récurrents pour tous vos produits de toute votre gamme. Alors, on peut aussi s'amuser, entre guillemets, à rajouter des éléments sur l'impression proprement dite. Et là aussi, on vous propose aujourd'hui un grand nombre de parachèvements. C'est le mot technique qui va qualifier la position, la possibilité de rajouter un vernis. Des vernis tactiles, on parle même, vous savez, de vernis braille, ce qui va vous permettre de mettre en évidence certaines parties de l'étiquette et on aura un toucher, une brillance qui va faire que cette partie de l'étiquette émergera du fond de l'étiquette. On peut aussi faire ce qu'on appelle un pelliculage, c'est-à-dire qu'on va déposer une pellicule sur cette étiquette qui aura comme objectif en particulier de protéger contre l'humidité ou l'abrasion hein, quand les bouteilles se frottent les unes contre les autres. On a du pelliculage mat, on a du pelliculage brillant, on peut le faire en partie sur l'intégralité de l'étiquette. Là aussi, tout est permis. Alors, si vous voulez aller vraiment dans la sophistication, bah, allez-y, sur la dorure à chaud, hein, on peut remettre de cette façon un logo en évidence, une marque en évidence. Et vous pouvez même aller encore plus loin en additionnant le gaufrage, c'est-à-dire la mise en relief d'une partie de votre étiquette. Cette mise en relief peut être appuyée avec la dorure par ailleurs, hein, ce qui vous fait vraiment un effet non seulement visuel, mais absolument tactile, qui fait que votre étiquette se démarque. Marquera bien sur l'ensemble des concurrents. Ces finitions, encore une fois, attention si vous utilisez une étiquette pour une bouteille réutilisable. Je ne vous conseille pas la dorure à chaud, je ne vous conseille pas les papiers métallisés. Ils ne sont pas suffisamment hydrophiles. Ils vont poser des problèmes pour se décoller au moment du lavage de cette bouteille pour être employée. D'autant qu'aujourd'hui, vous le voyez aussi sur le salon, on a le développement d'un maillage, je dirais, sur le territoire français de prestataires qui peuvent effectuer la collecte, le lavage de ces bouteilles pour vous les rétrocéder ensuite pour un nouveau réemploi. Avec en particulier Usage, hein, qui est là, qui a inventé un système pour gratter les bouteilles de bière, hein, pour être sûr de récupérer une bouteille absolument intacte, sans l'abîmer non plus, bien entendu. Donc non seulement on évitera les vernis brillants, on évitera le dorure à chaud, mais on fera aussi en sorte aussi que la colle qu'on utilisera sera une colle lavable qui va pouvoir permettre de détacher l'étiquette dans des bains de soude ou voire même dans un simple aspersion avec de l'eau froide. Oui, parce que je ne vous ai pas dit, dans la plupart des cas, toutes les étiquettes qu'on va vous proposer aujourd'hui, elles sont plutôt auto-adhésive. Et là, encore une fois, un petit couplet. Ces étiquettes vous sont livrées soit sur des rouleaux, soit sur des paravents, soit en paravent, comme on dit, effectivement. Donc, comme les listings, vous voyez, quelque chose qui va se déplier. Et tout ça va dépendre si vous avez derrière une pose manuelle ou une pose mécanique. Mais j'insisterai sur le fait que le support siliconé hein, qui porte cette étiquette étiquette adhésive que vous aurez acheté ou imprimé vous-même, eh bien, ils se recyclent aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle les glacines. Et retournez-les chez les fabricants d'emballage, ça se recycle. C'est quelque chose d'absolument nouveau. Et vous le savez, on est dans la génération de l'économie circulaire, du upcycling. Donc, il n'y a pas de raison que la brasserie ne montre pas l'exemple. Alors, je vous ai dit qu'on évitera les papiers métallisés, mais bon, il y a toujours des exceptions à ce qu'on dit. Et la meilleure preuve, et je n'ai pas résisté à l'idée de vous montrer ceci, puisque ce papier spécial est fabriqué dans l'usine de Stenay, qui vient de changer de nom parce qu'elle a été rachetée récemment, qui est juste dans les Vosges, pas très loin de chez nous. Donc, on commence à avoir des papiers très sophistiqués qui vont toutefois se prêter à la possibilité d'équiper en quelque sorte des bouteilles à consigner ou à re-remplir. Alors bien évidemment, cette étiquette, on va essayer de la doter d'un design avec des couleurs, avec des polices de caractère et avec des illustrations particulières. Alors que faire? Bien sûr, là, le fabricant d'étiquettes va vous demander qu'est-ce que vous préférez. N'oubliez pas encore une fois, bien sûr, que c'est important que toute cette étiquette vous plaise à vous, le fabricant, mais qu'il plaise surtout essentiellement au consommateur qui va acheter votre produit. Donc, on nous donne quelques guidelines, je dirais, pour une bouteille verte. On vous dit que, en général, on va mettre une étiquette qui est plutôt blanche et noire, sur laquelle on va rajouter une troisième couleur par fine touche. Bon, ça, c'est pourquoi pas, c'est quelque chose d'un peu général. On nous dit, en tout cas, les designers nous disent que la bouteille brune, elle constitue une base neutre sur laquelle on va pouvoir vraiment mieux jouer sur l'étiquette avec une panoplie de couleurs qui vont pouvoir mettre en avant cette étiquette. Alors ensuite, sur les polices de caractère, moi, j'insisterai sur trois choses à éviter. Parce que vous le voyez bien, là, moi, avec l'âge, j'ai des lunettes, je vois moins bien. Donc, la taille des caractères, s'il vous plaît, un minimum de caractère 12 quand vous imprimez. Hein, ça, c'est vraiment le minimum. D'autant que, de toute façon, il y a des mentions légales pour lesquelles on doit respecter une taille de caractère, hein, 1,2 mm. N'abusez pas de la typographie de caractère gras. N'abusez pas d'italique, ce sont des choses qui rendent le message absolument illisible quand il y en a trop. D'autant que le caractère gras, vous le réserverez pour mettre en avant les éventuels allergènes qui pourraient figurer dans votre boisson. C'est une obligation légale, hein, d'imprimer les allergènes et de les faire figurer en gras sur l'étiquette. Donc, voilà, après, les polices de caractère que vous choisirez vont évoquer des choses beaucoup plus modernes ou au contraire traditionnelles. Alors, quelle image ensuite utiliser? Eh bien là, encore une fois, essayez d'être cohérent avec le nom de votre produit, avec la valeur que vous allez mettre en avant. Est-ce que vous allez vous adresser à un public jeune, moderne, qui lui va chercher peut-être l'humour ou les choses un peu décalées? Est-ce qu'au contraire, vous allez vous adresser à des vrais amateurs de bière traditionnels? Ils chercheront effectivement plutôt des choses dépouillées, classiques. Voilà comment, dans ces cas-là, on va pouvoir développer un certain nombre d'impressions, en tout cas, de design possible. Alors, je vous ai mis derrière des exemples que l'on doit voir tout à l'heure, sachant que ici, je vous remets les avantages et les inconvénients de la possibilité qui vous est offerte, soit d'imprimer vous-même, soit de faire imprimer. Encore une fois, le web to print que vous avez conçu avec tous les outils informatiques et les outils de design, vous concevez vous-même votre étiquette et vous allez pouvoir l'imprimer. C'est intéressant si vous démarrez une production, que vous avez une petite production, bien sûr, et que, à la limite, vous allez imprimer selon vos besoins. Alors, c'est bien si, en particulier aussi, vous avez des séries limitées hein, qui vont pouvoir être mises sur le marché pour Noël, pour Pâques ou je ne sais quelle fête particulière. Par contre, dès que vous commencez à avoir une production absolument régulière sur l'année avec des grandes qualités, de quantité, très vite, il devient plus intéressant de faire fabriquer ces étiquettes par des imprimeurs, tels que vous les voyez sur le salon d'ailleurs, qui vont vous permettre un plus grand choix de vernis, de couleurs, de matières. Et là, vous pourrez effectivement avoir une personnalisation de vos étiquettes plus poussée. Sans compter que ces gens, ces imprimeurs, sont là pour vous donner des conseils et vous renseigner effectivement sur les grandes tendances que l'on peut observer en matière de design. Une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une étiquette, c'est un élément constitutif d'un tout. Vous allez peut-être avoir un cluster pack en carton, un présentoir en carton, un présentoir en bois, une communication directement avec des affiches. On va retrouver les couleurs, les logos, le dessin que vous aurez choisi pour votre étiquette sur ces différents éléments. Donc c'est important d'avoir ça en tête puisque, je dirais, détails respectifs de design vont s'appliquer mieux sur des petites surfaces que sur des grandes ou vice-versa. D'autant que là, vous voyez, avec ce portant en portable en bois, tout ne va pas être possible à réaliser. Dans ce cas-là, on va se focaliser sur un petit logo ou un petit symbole caractéristique de votre production. Donc toujours la cohérence, hein, la cohérence par rapport au nom, la cohérence par rapport à la cible visée et la cohérence de tous vos éléments de communication les uns par rapport aux autres. Alors cette étiquette, aujourd'hui, il y a un certain nombre de tendances que l'on peut rencontrer. Les designs minimalistes qui ont été très très à la mode il y a encore quelques années, mais qui le sont encore aujourd'hui. Vous voyez qu'on va aller sur du blanc, une seule couleur, du monochrome. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, dans les linéaires, on voit beaucoup de choses très colorées. Par contre, une étiquette aussi minimaliste que celle-ci, on va la repérer très facilement sur un linéaire. Hein. C'est ce qu'on appelle la saillance. Il faut savoir d'ailleurs que quand on est sur un consommateur, qu'on est déambule dans les rayons des supermarchés, c'est d'abord la couleur que l'on va voir à 10 mètres du produit. À 3 mètres du produit, c'est sa forme que l'on va voir. Donc la forme de la bouteille et de l'étiquette va jouer son rôle à ce moment-là. La marque de votre produit, on ne la voit qu'à 1 mètre du produit lui-même. Donc l'importance de la couleur est grande. Bon, alors on n'est pas du tout dans le monde de la brasserie, mais ce n'est pas pour rien que Coca-Cola est rouge et ce n'est pas pour rien que Pepsi-Cola est bleu. Vous avez bien compris la différenciation qu'ils ont jouée entre eux. Donc design minimaliste, pourquoi pas, et à l'inverse des couleurs unies, oui, et uniques. Et aujourd'hui, le violet est très tendance, hein. C'est quelque chose qu'on voyait jamais dans l'alimentaire jusqu'à il y a quelques années. Aujourd'hui, il n'y a pas d'interdit à utiliser le rose fuchsia ou le violet dans une étiquette pour produits alimentaires. L'humour est souvent présent dans ces étiquettes, parce qu'on va destiner ça à des consommateurs un peu locaux dont on a pu apprécier le lien, d'une façon presque un peu confraternelle. Bon, on peut toujours rester sur l'œuvre d'art, hein. Ça, c'est pas un problème. Hein. C'est vrai que c'est des choses qu'on voit un peu plus dans les alcools, les spiritueux et le vin, mais pourquoi pas, on peut s'amuser à développer aussi ce genre d'approche pour la bière. Le côté vintage, très à la mode aussi. Hein. On ressort des caractères et des illustrations anciennes. C'est pas nous au musée de la brasserie qui allons vous dire le contraire. Avec notre bâtiment et nos vitraux classés monuments historiques, hein, on a fait de très jolies choses dans le temps. Un Mucha ou autre a fait des étiquettes magnifiques qui pourraient très bien revenir à la mode demain. Bon, alors, ce que l'on trouve aussi pas mal, c'est l'impression directe de mots sur ces bouteilles. Et n'oubliez pas qu'en mettant des bouteilles côte à côte sur un linéaire, vous pouvez raconter une histoire telle que vous le voyez là. C'est quelque chose qui n'est encore pas trop utilisé dans la bière, mais qu'on trouve beaucoup dans la parfumerie en particulier. Alors, on a bien sûr aussi les séries limitées, hein, pour les bières de Noël en particulier. Et n'oubliez pas qu'un emballage peut aussi être doté d'une puce électronique et devient intelligent. ou de ce fameux QR code qui va renvoyer sur une histoire, sur un lien internet. Et surtout, moi, j'attire votre attention sur le fait que quand on s'est un peu gratter la tête pour réaliser une étiquette en 3D pour sa bouteille, eh bien, son rendu en linéaire est magnifique, mais sur le e-commerce, sur un ordinateur, c'est nul, hein, puisque la photo, elle n'est qu'en une dimension. Donc, vous perdez toute l'impression de volume que vous avez créé pour une étiquette qui va être positionnée d'une façon circulaire. Petit mot là-dessus, vous avez un organisme qui s'appelle GS1, qui gère les codes à barre et qui a édité un code pour aider les entreprises à reconcevoir des étiquettes pour une meilleure visibilité sur les sites internet. Alors cette étiquette, bon, on l'a dotée de tous ses attributs, je dirais, esthétiques. Eh bien, elle est surtout là aussi, cette étiquette, pour enseigner le consommateur sur les mentions légales à faire figurer. Alors, je vais vous effrayer en vous montrant les trois slides là derrière. Vous avez ici ce qui doit figurer dans le même angle de vue du consommateur sur une étiquette. Et ensuite, vous avez dessous le site internet sur lequel je suis allée prendre cette figure. Trois sites vont vous renseigner sur les mentions obligatoires à faire figurer sur une étiquette de bière. C'est à la fois le site de B2B, qui est présent d'ailleurs au salon, mais aussi les syndicats, hein, que ce soit Brasseurs de France ou les CNBI, vont pouvoir vous renseigner sur ces mentions légales obligatoires. Et puis moi, je vous engage à poser la question à la DGCCRF, les fraudes, puisque ce sont eux qui iront contrôler tout ça quand votre produit est sur un linéaire. Donc ils ont tout à fait vocation aussi à vous dire si votre étiquette avec ces mentions légales obligatoires est conforme à la réglementation ou pas. Alors ici, toutes les dénominations de vente, hein, qui sont assorties des conditions qui vous permettent de faire figurer cette dénomination de vente. Vous avez derrière les autres mentions obligatoires, bien sûr le taux d'alcoolémie, la quantité nette, le mode d'emploi s'il y a besoin de quelque chose de particulier, les deux pictogrammes qui sont la femme enceinte, hein, et le logo du Triman. Exit le point vert, hein, c'est fini, terminé, on n'en parle plus, hein. Il n'est plus du tout obligatoire. Par contre, on vous demande de mettre ce fameux Triman, qui est ce petit bonhomme là, hein, qui trie les emballages. Si vous ne le mettez pas, vous aurez une pénalité à payer à l'éco-contributeur qui s'appelle Citeo. Hein. Alors, si vous démarrez et que vous n'avez que quelques petites quantités, on ne va pas venir vous chercher. Mais dès que votre production devient significative, vous êtes obligé, au nom de la responsabilité élargie du producteur, de contribuer à ces éco-organismes. Qu'est-ce qu'on a comme obligation à faire figurer ? Les allergènes en gras, bien entendu. Le nom ou la raison sociale de l'exploitant, celui qui met sur le marché. Si c'est l'importateur, si le produit est importé, on mettra l'importateur. Et le pays d'origine, s'il y a un risque de confusion entre le nom, la raison sociale et l'origine même du produit. Alors, d'autres mentions vont pouvoir figurer sur cet emballage. C'est des mentions réglementaires. Hein, vous n'avez pas le droit de mettre bière artisanale. Si vous n'avez pas fabriqué ce produit en tant qu'artisan, c'est-à-dire inscrit au répertoire des métiers, répondant aux exigences de qualification professionnelle. Hein, je crois qu'on a l'année dernière annoncé, ou cette année, qu'effectivement cette formation diplômante était là, existait. Et vous avez un organisme comme l'IFBM qui aujourd'hui vous propose cette formation. Et là, vous pourrez mettre sur votre étiquette bière artisanale. Encore une fois, bière du terroir aussi, ce n'est pas des appellations que vous utiliserez de votre propre initiative. Ça doit répondre à des exigences bien particulières. Alors, une dernière chose qu'on n'oubliera pas, le fameux GenCode, ce code à barre qui est là. Hein, si vous vendez en grande surface, il est obligatoire pour le passage en caisse. Il est donné par l'organisme GS1. Hein, c'est un organisme international, ce qui fait que ce code-là est unique dans le monde pour votre produit. Sachez que GS1 en question va vers un nouveau QR code augmenté, c'est-à-dire qu'il y aura plus d'informations dans ce code que ce que contient celui-ci aujourd'hui. C'est quelque chose qui va se déployer dans les mois et les années à venir. Bon, laissons déjà les grands je dirais, essuyer les plâtres hein, avant de vous lancer. Par contre, n'oubliez pas les QR codes classiques qui vont vous permettre de faire de la réalité augmentée hein, et pourquoi pas de mettre votre bière en scène sur des vidéos derrière, sur votre production, votre implantation ou sur des matières premières très spécifiques que vous utilisez. Et enfin, n'oubliez pas non plus l'infoterie qui est là, hein, qui est ce cartouche que l'on doit mettre hein, pour orienter le consommateur sur que doit-il faire de sa bouteille. Là aussi, si vous ne le mettez pas, eh bien, vous aurez une pénalité au niveau de l'éco-contributeur. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'étiquette à mettre en œuvre sur une bouteille de bière. Alors vous allez me dire, oui c'est bien beau tout ça, mais moi finalement je ne suis pas très spécialiste du design et autres. Eh bien nous on a un président au musée qui est Benoît Thavenot qui s'est amusé à inventer des étiquettes, mais il a été intelligent parce qu'il a utilisé l'intelligence artificielle pour fabriquer cette étiquette. Et je lui laisse la parole pour vous présenter les résultats de ces essais.
Merci. Merci beaucoup Annette, hein, parce que elle avait dit qu'elle dirait trois mots. J'en ai entendu au moins quatre, je ne sais pas vous, mais on pourrait évidemment lui poser quelques questions perfides juste après pour mettre cette partie en œuvre. Benoît, bienvenue à ton intelligence, pas seulement artificielle, j'espère.
Oui, à l'intelligence artificielle de Midjourney, qui est un des programmes qui nous permettent de créer une étiquette. Annette nous a très justement expliqué toutes les contraintes techniques et réglementaires qui existent sur l'étiquette, mais il se pose aussi, bien entendu, le dessin à faire. Alors peut-être on a des dessins qui existent toujours, ou on reprend un dessin qui avait déjà été utilisé, mais on peut aussi créer un dessin. Alors soit on est un artiste, puis on prend son pinceau et on dessine, soit, comme moi, on n'est pas artiste, et on va faire travailler l'intelligence artificielle. Ce n'est pas la panacée, mais ça permet de faire un certain nombre de choses. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste, mais simplement on a vécu au musée une expérience de la création d'une étiquette avec l'intelligence artificielle. Je vais vous raconter cette expérience, mais on est bien d'accord sur le fait que c'est pour vous donner un petit aperçu de ce qu'il est possible de faire. En aucun cas, c'est un cours qui va vous permettre d'être un expert dans la manipulation de ce type de logiciel. Donc voilà, alors c'est le logiciel Midjourney. Donc voilà, on avait demandé à Midjourney de nous dessiner Saint-Nicolas avec un verre de bière. Saint-Nicolas parce que bien entendu on est à Saint-Nicolas-de-Port et un verre de bière parce que on imagine que Saint-Nicolas ait pu venir visiter le musée et venir trinquer avec nous. Donc voilà ce que Midjourney nous a sorti. On reviendra de façon un peu plus critique tout à l'heure sur certaines images. Ensuite on lui a toujours demandé de dessiner un Saint-Nicolas avec un verre de bière et une bouteille. Mais on lui a précisé sur un style de dessin de type des peintres hollandais du XVIIIe siècle. Donc il nous a sorti ce dessin. Alors on aime ou on n'aime pas, ça dépend avec le genre. On verra tout à l'heure qu'il y a des tas de possibilités. Mais il faut qu'on garde toujours l'esprit critique. Ce n'est qu'une intelligence artificielle qui va nous permettre de faire des choses. Parce qu'on a redemandé une demande, on a formulé une demande un peu similaire et on a obtenu ceci. Alors c'est toujours intéressant. Sauf qu'on s'aperçoit que Saint-Nicolas a trois mains. Donc là, il y a un petit problème. On s'aperçoit aussi que là, il tient la bouteille de façon curieuse, parce qu'il tient la bouteille par l'extérieur. Alors, s'il tient comme ça, la bouteille va tomber. Donc ce dessin-là n'est pas utilisable. Il faut, bien entendu, chaque fois, garder l'esprit critique de ce qu'il est possible de faire. On pourra lui proposer aussi de faire des choses beaucoup plus simples. Là, on lui a demandé de faire un Saint-Nicolas, toujours la même chose, avec une bouteille de bière, mais façon jouer en Lego. Donc voilà ce qui nous a sorti. Donc là, il n'y a pas d'erreur manifeste, mais enfin, c'est un type de dessin qu'on peut faire à Midjourney. Voilà. On peut aussi introduire un personnage connu. Par exemple, il est possible que vous connaissiez ce personnage, ou celui-là, enfin, ou tout autre sur l'image. Donc il y a des personnages connus qui peuvent être introduits. Il suffit dans l'énoncé de lui dire tu mettras un tel. Alors il faut que ce soit des personnages connus. Parce que si on lui dit tu mettras Tartempion, il n'a pas dans ses registres le portrait de Tartempion. Mais là, il se trouve qu'il avait dans ses registres le portrait de ce personnage et il a donc pu le mettre en scène. Alors j'avance. Hop, j'ai été trop vite. Voilà, alors finalement nous nous sommes arrêtés à cette image-là, donc dans Saint-Nicolas, qui va boire un verre de bière, et nous l'avons monté en étiquette, c'est-à-dire qu'on y a ajouté ici simplement bière Saint-Nicolas, et ici on a mis une petite limitation en disant cette image a été générée par un logiciel d'intelligence artificielle sans aucune intervention humaine. C'était pour expliquer, parce que pour nous c'était aussi un coup de communication, on va revenir là-dessus. Alors, on a gardé cette image, bien que, avec un esprit critique, on remarque quand même un certain nombre d'anomalies. On voit par exemple que ici, Saint-Nicolas a 5 doigts de ce côté-là, c'est-à-dire qu'il n'a pas de pouce, ou alors le pouce, c'est un 6e doigt. On remarque aussi qu'il a un verre de bière qui comporte 2 hauteurs de mousse, ce qui n'est pas habituel quand même. Mais malgré tout, l'image nous paraissait agréable, donc on l'a conservée. Voilà. Alors, on avait fait une invitation pour nos amis et les membres de notre association en leur expliquant un petit peu la démarche. Donc, je garde cette explication pour vous. Le Musée français de la brasserie a fait créer une nouvelle étiquette pour sa bière Saint-Nicolas en utilisant une intelligence artificielle capable de générer des images. Cette étiquette est symbolique de la révolution en marche dans l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine de la création. L'intelligence artificielle fonctionne en utilisant des algorithmes qui analysent des millions d'images pour identifier les motifs et les styles pour apprendre à tous les reproduire. Je vais peut-être vous laisser lire tout seul, hein, vous lisez aussi bien que moi, peut-être mieux d'ailleurs. Les choses importantes, l'intelligence artificielle doit être guidé par l'utilisateur qui conserve l'initiative de la création artistique et ne remplace donc pas la créativité humaine qui l'accompagne. Alors, on avait noté que ce texte lui-même avait été créé par une intelligence artificielle. Là, ce n'était pas Midjourney, hein, c'était un logiciel de création de texte que nous avons utilisé pour générer ce texte et qui nous l'avait sorti à peu près comme ça. On lui avait dit, explique-nous la création d'une étiquette de bière par l'intelligence artificielle. Et il nous a sorti ça à peu près tel quel. Une ou deux toutes petites mises au point, mais c'était vraiment minime. Voilà. Alors pour nous, c'était bien entendu aussi l'opération, et c'est souvent la volonté dans le musée, de faire un petit coup de pub, un petit éclairage médiatique. Chaque fois qu'on peut le faire, on le fait, parce que pour nous, musée, quand on parle de l'association et des locaux que nous avons le plaisir d'animer, c'est toujours intéressant. Donc l'intelligence artificielle avait été mise en avant dans un article de l'Est républicain, vous voyez, au mois d'avril, lorsqu'on a sorti cette étiquette. Voilà, comment ça se présente, le logiciel ? Quand on va sur Midjourney, on va... Hop, là, j'ai été un peu vite, on va reculer, pardon. Voilà, on va... c'est ça. En fait, c'est ça le logo qu'il faut rechercher. Et on va l'ouvrir ici, ouvrir Discord dans ton navigateur. Et alors, on va lui faire générer des images. Donc là, on lui avait généré Saint-Arnoux, patron et brasseur, style bande dessinée. Et alors, il nous a sorti ça. Pour moi, ce n'est pas très satisfaisant. Donc, on a fait d'autres essais. Voilà. Saint-Arnoux, patron des brasseurs, style BD. C'est pas non plus très, très concluant. Donc, vous voyez, la formulation va avoir beaucoup, beaucoup d'importance. Et ça, il faut s'entraîner à le formuler. Pour les gens qui parlent bien anglais, c'est plus facile de formuler la question et la demande en anglais. Parce que Midjourney est un logiciel fabriqué aux États-Unis, et donc quand on lui parle en français, il traduit. Elle traduit avec les problèmes de traduction automatique. Voilà, encore un autre exemple. Toujours des différents essais que nous avons pu faire. Voilà. Alors on lui avait dit style vitrail. Donc il nous a sorti des images. Tout ça se fait, vous allez voir tout de suite, ça se fait en quelques instants. Alors voilà, on va le voir comment ça se présente. Donc voilà, on va sur Discord. Ouvrir Discord dans ton navigateur. Là, je l'ai fait pour vous montrer comment ça se concrètement, comment on fait. Voilà, donc là, je tape sur Code Gomorov, qui est mon logo. Et je vais aller sur imagine prompt, et là, je vais lui écrire ce que je veux. Donc, je vais lui demander de générer une image de Gambrinus, Gambrinus dans la forêt. Je sais d'avance, vous voyez, c'est formidable. Et en lui précisant un style dessin d'enfant. Donc voilà, j'ai formulé ma demande, je valide et Midjourney commence à travailler. Donc voilà, il génère. Alors on est à 0% de création, mais vous allez voir, ça va évoluer. On est à 15%. Il est en train de générer les images là. 31%. Voilà, il génère une image. Alors, on le verra à la fin. Moi, je pense qu'il confond un petit peu Gambrinus et un petit nain. Mais enfin, il génère une image qui peut éventuellement nous intéresser. Donc, on peut agrandir l'image. Et vous allez voir que ça fait tout de même des images de grande qualité. Voilà, hein, c'est quand même des agrandissements de grande qualité, donc parfaitement utilisables. Voilà, alors là, je lui ai dit d'enregistrer. Je le mets sur mon bureau et on va l'enregistrer. Voilà. Alors, la variation dans la formulation de la demande va générer des images très différentes. Hein, c'est ça qui est tout. C'est ça l'essentiel. C'est la formulation de la demande. Hein. Donc là, on va toujours dans Discord. Discord, voilà. On valide. Ouvrir Discord dans ton navigateur. Toujours pareil, je vais sur mon code qui est Kolkomorov. Et je vais lui écrire à nouveau ma demande. Donc je commence par Imagine Prompt. Et là, je lui formule ma nouvelle demande. Vous remarquez que l'ancienne création est restée visible. Donc on est toujours sur Gambrinus dans la forêt. Mais cette fois, on lui dit style mosaïque. Donc à nouveau, il va générer notre image. Voilà. 0%, mais il va commencer à générer l'image. Vous voyez, 62, 78% de création. Voilà, alors maintenant on aperçoit bien que c'est une mosaïque. Ça reste un peu flou, mais voilà. Donc on va agrandir l'image. Voilà, vous voyez, on a tout de même des images qui sont de haute qualité. Alors je vais l'enregistrer pour la mettre sur mon bureau et d'en faire après ce que je veux pour créer une étiquette par exemple. Donc voilà. Alors, voilà, je voulais quand même vous préciser que pour utiliser Midjourney, vous avez une petite démonstration très brève, c'est très simple, a priori, mais si vous les maîtrisez un petit peu, il va falloir vous entraîner. Méfiez-vous, quand on commence à jouer avec ça, on y passe l'après-midi. Parce qu'effectivement, on crée des images. Moi, je vais tout vous dire, c'est mon fils qui est beaucoup plus doué que moi en informatique qui m'a appris à utiliser cet appareil. Et on y a passé 2 heures parce qu'on en crée, puis on en crée toujours. Puis attends, on va modifier ça, puis on va redire ça, puis etc. Et comme ça, on en a généré plusieurs centaines. Parce que chaque fois, vous avez vu, ça prend 2-3 minutes. Donc on peut en générer à l'infini. Mais il y a comme si on veut s'amuser, il y a quand même une solution un petit peu plus pertinente, c'est d'aller sur un tuto. Donc moi, je vous ai indiqué ce tuto qui est assez facile à mémoriser, qui est facile d'approche. Donc vous pouvez au moins voir ce tuto qui vous permettra déjà de vous familiariser un petit peu avec les processus à mettre en œuvre pour utiliser ce dispositif. Alors, voilà. Donc, bien entendu, vous allez me parler de prix. Midjourney était gratuit au début, quand ils l'ont lancé il y a quelques mois. Maintenant, il n'est plus gratuit. il y a une version minimale qui va vous coûter 10 dollars, c'est à peu près 10 euros par mois. Moi, personnellement, je vous conseillerais celle-là qui va vous coûter 30 euros par mois. L'avantage, c'est que vous pouvez prendre un mois. On n'est pas obligé de prendre, c'est pas à perte de vue. Donc, vous vous abonnez pendant un mois. En un mois, vous avez le temps de vous initier au truc, de créer un certain nombre d'images, de créer votre étiquette ou votre affiche ou votre catalogue de publicité. Et ça peut suffire. Maintenant, si vous êtes passionné, ben vous abonnez pour plus longtemps. Voilà. Alors, je vous signale donc effectivement ce domaine est en pleine évolution, mais qu'il existe aussi. Moi, je vous ai montré Midjourney. Il existe également d'autres logiciels qui font eux aussi génèrent des images. Je vous dirais franchement, je ne les ai pas essayés, mais enfin, je sais que ça existe et que ça fonctionne également. Par contre, je vous encourage vivement à suivre ce domaine de la création graphique qui évolue très vite et dans lequel l'intelligence artificielle sera de plus en plus présente, avec toutes les critiques et toutes les limites que je vous ai indiquées. Et effectivement, on peut penser que ça va être associé à différentes choses. Il y a des progrès dans ces logiciels tous les jours, pratiquement. On pourra maintenant y intégrer des éléments connus. Comme tout à l'heure, vous avez vu, on a pu intégrer le portrait de Macron. Mais on pourra aussi intégrer d'autres éléments, la photo de votre brasserie ou la photo de votre belle-mère, qui vont pouvoir être intégrés dans les images à créer par Midjourney. Donc, ça évolue. Les petites erreurs de début aussi commencent à se corriger. Vous avez vu, je vous ai fait remarquer à plusieurs reprises que les mains étaient mal créées. Mais oui, je finis, Jean-Louis. Mais en étant attentif, on arrive tout de même à faire des choses intéressantes. Voilà.